Bienvenue sur nos ondes locales. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la nouvelle année 2025. Meilleurs vœux à vous tous, nos auditeurs et aussi à nos radios locales associatives. Bonjour Rémi.
Bonjour Michel. Meilleurs vœux à vous tous. Que 2025 nous apporte beaucoup de satisfaction. Et nous commençons l'année avec quel thème d'histoire locale ?
L'orphelinat de Seyon, aux portes de la ville de Bourg-en-Bresse, mais situé sur la commune de Peyronnat. Le site est en cours de restructuration et des bâtiments ont été détruits.
Nous en parlons après avoir écouté quelques mots de Jacques Brel.
Mon enfance passa de grisaille en silence, de fausse révérence, en manque de bataille. L'hiver, j'étais au ventre de la grande.
Comme Jacques Brel, nous évoquons une grande maison d'autrefois, l'orphelinat de Seyon. Avant de parler de cet orphelinat, retraçons d'abord l'origine des bâtiments.
L'origine remonte à un prieuré bénédictin qui choisit, en 1178, la règle de Saint-Bruno. C'est désormais une chartreuse qui prospère grâce à diverses donations. Un siècle après le rattachement des pays de l'Ain à la France, elle devient l'une des plus belles de l'ordre, mais tout est remis en cause à la Révolution et les moines doivent quitter les lieux en 1792.
Les bâtiments sont alors vendus comme biens nationaux à divers propriétaires. Ils sont surtout utilisés comme une carrière de pierre et ils sont plus ou moins démantelés. Quelques décennies plus tard, ils intéressent une œuvre de bienfaisance.
Il s'agit de lutter contre l'exode rural vers les villes ou l'exode de l'agriculture vers l'industrie. L'accroissement des villes entraîne parfois de la misère et les enfants orphelins ou abandonnés sont livrés à eux-mêmes. Le souhait est de créer une œuvre charitable qui les prendrait en charge et leur apprendrait un métier. Elle démarrerait avec des dons et ensuite achèterait une propriété pour vivre par elle-même, par l'exploitation de la terre.
Nous sommes sous le Second Empire, après plusieurs révolutions. Il y a des idées sous-jacentes.
La ville où se concentrent de nouveaux arrivants est volontiers assimilée à l'immoralité, au désordre, contrairement à la campagne, symbole de l'air pur et de la vie saine et heureuse. Autant que possible, il faut soustraire les orphelins de la ville, leur apprendre un métier honorable et apporter de nouveaux bras à l'agriculture qui en manque. On leur apprendra aussi la lecture, l'écriture et les principes élémentaires du calcul. L'éducation morale et religieuse primera, seule, l'instruction agricole. Les jeunes gens qui sortiront des providences seront plus instruits que la plupart des domestiques de ferme et ils seront davantage recherchés et mieux rémunérés. Plus tard, ils pourront être fermiers, voire même propriétaires.
Ces objectifs sont fort louables. Quand ces hommes de bonne volonté se rassemblent-ils pour fonder leur société de bienfaisance ?
Cela se passe à Lyon, là où les philanthropes sont plus nombreux, et l'objectif est de créer deux établissements, l'un proche de Lyon, l'autre proche de Bourg. Ces hommes obtiennent le concours du cardinal-archevêque de Lyon, de l'évêque de Belley, des présidents des conseils généraux du Rhône, de la Loire et de l'Ain. Une souscription est lancée en novembre 1859, auprès des notables des trois départements. Les dons en nature pour le mobilier, la lingerie, la chapelle sont aussi acceptés.
Quels sont les notables de l'Ain à s'inscrire dans cette œuvre ?
Dans la liste des 17 noms publiés par le journal de l'Ain du 4 novembre 1859, on relève les noms d'Alfred de Labatie, propriétaire à Bourg, de Jules Bonnet, propriétaire à Jujurieux, et Aimé Bouvier, avocat à Bourg. Nous pouvons aussi citer le nom de l'abbé Griffon, président d'une société de secours mutuel dans le Rhône, qui occupera bientôt une charge importante.
Quel est le nom de cette société ainsi créée ?
Il s'agit des Providences agricoles de Saint-Isidore. L'appellation est assez surprenante comme la motivation des dirigeants de cette société caritative laïque. Elle se place sous le patronage de saint Isidore le Laboureur, qui a vécu au XIe siècle en terre madrilène. La légende raconte qu'il se consacre davantage à la prière qu'aux travaux des champs. Son maître le surprend en effet à prier, mais les bœufs continuent à tirer la charrue comme s'ils étaient conduits par deux anges. Il est canonisé en 1622 et son culte, parti d'Espagne, s'est propagé en Bretagne et en Franche-Comté.
Les fondateurs de ces providences doivent trouver une propriété.
Ils jettent leur dévolu sur les bâtiments et les terrains de l'ancienne chartreuse de Seyon, acquis pour environ 100 000 francs, une somme importante, mais Alfred de la Bâtisse en porte garant à titre personnel. Quelques travaux d'aménagement sont nécessaires pour accueillir l'orphelinat. La présidence des providences agricoles est confiée à Alfred de la Bâtisse.
Comment et quand démarre l'orphelinat ?
Nous n'avons pas tous les détails des démarches entreprises et par qui. Toujours est-il que c'est l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, alors installé au quartier de Bel Air à Bourg, qui est transféré à Seyon. Il fusionne au sein des providences agricoles et son personnel sera à la base du démarrage de Seyon. Le nouvel orphelinat ouvre le 1er mars 1860 avec 23 orphelins, 14 de Bel Air et 9 autres, sous la direction de l'abbé Griffon, origine de Joux, un village proche de Tarare dans le Rhône. Le second orphelinat est créé à Vernaison, au sud de Lyon, en septembre 1860.
Avons-nous des détails sur le nouveau domaine de Seyon ?
Les bâtiments sont déjà dans une situation favorable, au pied d'un léger coteau d'où sourdent plusieurs sources. Le clos de l'ancienne chartreuse, qui s'étend sur 11 hectares, est acquis avec les jardins, vergers, viviers, prés et terres. S'ajoute tout un ensemble d'autres terrains de l'ancienne chartreuse pour constituer un domaine d'environ 30 hectares. Les fermes acquises permettent de démarrer l'exploitation du domaine avec 15 têtes de bétail.
Les conditions sont donc favorables pour démarrer.
Elles le sont, d'autant plus que les hommes rejoignent l'abbé Griffon pour l'aider à exploiter le domaine. S'ajoutent les appels à dons pour l'orphelinat, lancé lors de prêches à l'église Notre-Dame de Bourg. La cause est noble et elle est bien reçue. 6 ans après sa création, l'établissement accueille une soixantaine d'enfants.
Qui s'occupe du quotidien des orphelins ?
Ils sont nombreux et les femmes de service ne suffisent pas. Alors, en 1867, le père Griffon crée un noviciat de religieuses, les servantes de Jésus, qui deviendront plus tard les sœurs franciscaines de Seyon. Ces religieuses prennent en charge l'éducation des enfants. Bientôt, c'est toute la communauté qui vit à et de Seyon. Il y a des prêtres, des religieuses, des employés, des ouvriers laïcs et une centaine d'enfants. Le tout forme un ensemble de 150 à 200 personnes.
Cette communauté vit grâce aux productions agricoles et maraîchères.
Et pour juger de leur qualité, l'orphelinat de Seyon participe aux différents concours agricoles. Dès août 1863, il obtient un 4e prix de culture maraîchère au concours horticole de Bourg. On le retrouve ensuite dans d'autres concours qui suscitent l'émulation. Les concours, c'est aussi les discussions avec d'autres producteurs, l'ouverture vers d'autres horizons.
L'œuvre est exemplaire et elle sème ailleurs.
Seyon sert d'exemple pour des créations d'orphelinats en Gironde en 1872, dans le Lot et Garonne en 1876, dans l'Allier et en Espagne en 1885. Au décès du fondateur, l'abbé Griffon, en mars 1890, l'œuvre compte 5 établissements, 145 religieuses et 300 enfants environ. D'autres créations suivront.
À propos, comment vivent les enfants de Seyon ?
Nous n'avons guère d'informations, mais il est permis de penser qu'en cette fin du XIXe siècle, comme dans tous les internats, la discipline est stricte, avec une vie bien réglée, avec des offices religieux. Les hivers sont rudes, au sein de vastes bâtiments peu chauffés, comme ailleurs à la campagne. Selon les saisons, la forêt de Seyon offre de multiples ressources. Avec la cueillette du muguet au printemps, et les collectes de bois ou de glands à l'automne.
Seillon est essentiellement une ferme.
Un orphelinat pour les plus petits et une ferme pour les plus grands. Ceux-ci participent aux travaux du jardin, du verger, des champs et du vignoble installés sur le coteau. Ils élèvent aussi de la volaille et du bétail. La particularité de Seillon est que les garçons restent jusqu'à leurs 18 ou 20 ans. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent rechercher une place de domestique de ferme ou de jardinier. Ensuite, certains choisissent un autre métier et s'exilent à Lyon ou Paris, ces villes grandissantes offrant de multiples emplois.
Nous connaissons la vie à Seillon à la Belle Époque par des cartes postales.
Ces cartes montrent des groupes d'enfants avec leurs religieuses attitrées. Ces enfants ne sont guère souriants et leurs cheveux sont coupés très courts, comme on l'exige dans les établissements scolaires de l'époque, laïcs ou religieux. Des cartes montrent des enfants avec des jouets artisanaux en bois, peut-être fabriqués sur place, mais ils ne sont guère plus souriants. Ces jouets ne sont sans doute pas à leur libre disposition.
Des vues sont plus engageantes.
Comme celle des petits travailleurs de Seillon, une société de gymnastique avec costume et large béret. Elle participe à divers concours régionaux et elle y est toujours accueillie avec bienveillance. La gymnastique est enseignée dans la cour extérieure par un professeur qui vient les dimanches matins. Il y a aussi la fanfare qui connaît deux périodes d'activité avant la Grande Guerre.
La guerre de 1914-1918 survient et éprouve l'orphelinat.
Les hommes sont mobilisés et certains ne reviendront pas, comme l'indique la plaque gravée placée près de la chapelle, avec 33 noms, un abbé mort en Serbie et 32 anciens pensionnaires.
Après-guerre, la vie reprend à Seillon.
Et les conditions de vie s'améliorent comme ailleurs, avec des locaux qui évoluent vers davantage de fonctionnalités. L'établissement vit toujours comme une grande ferme autour des cultures, des champs et du vignoble. Une amicale des anciens élèves est fondée en 1927 et elle édite un bulletin trimestriel où les anciens pensionnaires évoquent leurs souvenirs des années passées à Seillon.
La communauté compte toujours autant de personnes à la veille de la Seconde Guerre mondiale, près de 200.
Par les restrictions imposées, cette guerre est difficile à supporter pour tous. Et lors de la libération, les enfants vivent une nuit d'angoisse au moment où les dépôts de munitions entreposés dans la forêt de Seillon doivent être détruits. Heureusement, les destructions sont limitées et au matin, la Bresse et l'Ain sont libérées.
Et la vie peut reprendre.
Le danger subsiste car des obus restent en forêt de Seillon et une religieuse et 5 enfants en sont les victimes lors d'une sortie en forêt en octobre 1949. Après-guerre, la France connaît une période d'expansion où l'importance de l'agriculture diminue. La société évolue fortement et les besoins sont différents. D'orphelinat, Seillon devient une maison d'accueil pour les enfants en difficulté, familiale ou relationnelle. Des formations sont toujours dispensées. Aujourd'hui, c'est une institution avec des enseignements spécialisés et ses missions sont toujours au service de l'enfance et de l'adolescence.
Nous avons parcouru plus d'un siècle et demi d'histoire. Nous terminons en remerciant Hortense à la technique et nous nous retrouvons dans un mois pour une nouvelle chronique. Au revoir à tous. Nous nous quittons avec Yves Duteil.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur. prendre un enfant dans ses bras. Mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Regardant tout au bout du chemin, prends.